Jacques Pradel sur RTL, l'heure du crime.
Et bonsoir à toutes et à tous, très heureux de vous retrouver en direct sur RTL et à la une ce soir avec l'affaire Dan Cooper, une histoire unique en son genre, celle d'un hold-up de 200 000 dollars effectué en avion de ligne par un gangster qui a sauté de l'appareil en parachute avec son butin et qui n'a jamais pu être retrouvé par la suite. Ça s'est passé le 24 novembre 1971 à Portland, la plus grande ville de l'Oregon, au nord-ouest des États-Unis. C'était le premier braquage aérien de toute l'histoire de l'aéronautique. Et ce 24 novembre, donc, veille de Thanksgiving, la fête traditionnelle américaine, un passager voyageant sous le nom de Dan Cooper monte à bord du vol 305 de la compagnie Northwest Airlines à l'aéroport de Portland. Le vol est un vol local à destination de Seattle, à moins de 300 km de là. Peu après le décollage, Dan Cooper menace de faire sauter l'avion si on ne lui verse pas 200 000 dollars en petites coupures et 4 parachutes à l'arrivée de l'avion à Seattle. Et là, eh bien, il libère les 36 passagers et il redécolle avec l'équipage de l'avion, les parachutes et la rançon vers une destination inconnue. Quelques heures plus tard, il faudra se rendre à l'évidence. L'audacieux braqueur a sauté de l'avion en vol et il a disparu avec la rançon. Malgré un dispositif de recherche hors norme, on n'a jamais retrouvé l'endroit où Dan Cooper avait atterri. Je vous raconte la suite de cette incroyable histoire dans un instant avec mon invité, pilote professionnel, expert aéronautique, Jean-Pierre Otelli. A tout de suite.
Jacques Pradel sur RTL.
L'heure du crime.
Et rebonsoir à toutes et à tous. Bienvenue donc pour cette nouvelle édition de l'heure du crime. Une émission qui a été préparée, comme toujours, par Justine Vigneault avec Amandine Lemaire. Et c'est Marc Bisset qui est à la réalisation technique, au pilotage, si j'ose dire, de cette émission. Car à la une, vous l'avez entendu, il s'agit du premier braquage aérien de toute l'histoire de l'aéronautique, ce qu'on appelle l'affaire Dan Cooper. Et pour en parler, l'invité de l'heure du crime ce soir est Jean-Pierre Otelli. Bonsoir Jean-Pierre Otelli.
Bonsoir Jacques.
Merci d'avoir accepté notre invitation. Je rappelle que vous êtes pilote professionnel, expert aéronautique et écrivain, puisque vous avez publié aux éditions JPO un grand nombre d'ouvrages sur les coulisses du monde de l'aviation. Mais ce qui nous intéresse ce soir, c'est un livre que vous aviez publié sur cette affaire Dan Cooper dans un ouvrage plus général que vous aviez intitulé « Gangster du ciel ». Alors, je disais, bon, l'histoire de Dan Cooper est une première, mais je voudrais vérifier avec vous quand même. Cette histoire est hallucinante. On pense à un scénario de film. Vous confirmez que tout ce que nous allons dire ce soir est vrai ?
Alors, non seulement c'est vrai, mais c'est tout à fait extraordinaire. On a eu par la suite des tas de gens qui ont essayé d'imiter Dan Cooper. Il y a eu des hold-up qui ont été faits un peu partout, même en France, sur des aéroports, ou qui ont des gens qui ont attaqué des avions de ligne. Mais un tel point de préparation, avec aucune victime, comme on en parlera tout à l'heure, dans une précision quasi horlogère et une réussite aussi extraordinaire, ça on l'a jamais vu et on ne l'a jamais revu.
Oui, parce qu'il faut bien dire que on ne sait pas ce qu'est devenu Dan Cooper. On ne sait pas s'il est mort, peut-être blessé au cours de son saut en parachute, ou s'il est allé couler des jours heureux avec une grosse partie de cette fameuse rançon. Alors, on a retrouvé d'ailleurs quelques dollars de cette rançon énorme, et ça, vous nous expliquerez ça tout à l'heure. Mais avant, je voudrais rappeler en quelques mots les circonstances dans lesquelles s'est déroulé ce hold-up en plein ciel, il y a presque 50 ans. Nous sommes aux États-Unis, donc, le 24 novembre 1971. Ce jour-là, Il fait froid et gris, c'est l'automne. La météo n'est pas très optimiste. Une épaisse couche nuageuse recouvre l'aéroport de Portland, dans l'état de l'Oregon. Il est 15h40 local. Les passagers du vol Northwest Airlines 305 embarquent à bord d'un Boeing 727 qui doit les conduire à Seattle, dans l'état de Washington. C'est vraiment un saut de puce. C'est à 300 km de là. Donc ce vol sera effectivement très court, à peine une vingtaine de minutes. Le voyage en avion coûte évidemment beaucoup plus cher que si on utilisait une voiture, mais c'est tout de même plus pratique, car par la route, avec les limitations de vitesse et la traversée notamment de la ville d'Olympia, il est impossible de mettre moins de 4 heures. Les derniers passagers viennent de s'installer à bord. Il s'agit de la famille Tompkins, dont les deux enfants de 10 et 12 ans, Stuart et John, ont été placés près des hublots parce qu'ils veulent évidemment profiter du vol pour regarder à l'extérieur. Et plus de 30 ans après, ils n'ont jamais oublié ce baptême de l'air, ni les événements qui ont accompagné ce premier vol, ni le passager étrange qui les avait étonnés dès l'embarquement parce que il portait, se souviennent-ils, des lunettes de soleil malgré la grisaille ambiante. Des lunettes qu'il n'avait pas quittées en s'installant quelques sièges derrière eux. Lentement, l'escalier escamotable situé à l'arrière de l'avion, presque sous la queue, est remonté, puis verrouillé. Le commandant de bord, Walter Scott, procède aux dernières vérifications avant le décollage. C'est un navigant expérimenté, un homme qui possède plusieurs milliers de vols à son actif et qui travaille à la compagnie Northwest depuis 14 ans. Ensuite, l'avion reçoit de la tour de contrôle l'autorisation de rouler vers le bout de la piste où il s'immobilise quand même un long moment pour laisser atterrir plusieurs appareils car il y a beaucoup de trafic aérien ce jour-là au-dessus de Portland. Puis, enfin, l'avion s'ébranle pour le décollage. Il est 16h35 lorsque les roues du Boeing quittent le sol. L'avion a maintenant atteint son altitude de croisière de 15 000 pieds, une altitude pas très élevée, étant donné la brièveté du vol entre Portland et Seattle. Les enfants, eux, sont déçus parce que l'appareil est entré dans une épaisse couche nuageuse quelques secondes seulement après le décollage, donc on ne voit pas le sol par les hublots. Alors pour passer le temps, les petits Stuart et John regardent ce qui se passe autour d'eux dans la cabine et ils détaillent la trentaine de passagers qui pour la plupart sont plongés dans la lecture d'un livre ou d'un journal. À l'exception toutefois de l'homme aux lunettes noires qui semble indifférent et qui regarde droit devant lui, sans bouger. Cet homme a entre 35 et 40 ans. Il s'est embarqué sous le nom de Cooper, Dan Cooper, et c'est sous ce pseudonyme qu'il entrera bientôt dans la légende des braqueurs du ciel. Il est maintenant 16h56. L'arrivée à Seattle est prévue à 17h11. Mademoiselle, l'homme aux lunettes noires vient d'interpeller l'hôtesse, une jolie rousse qui est en train de servir des verres d'eau et des friandises aux passagers. « Oui, monsieur, vous désirez quelque chose ? Voulez-vous vous asseoir quelques instants près de moi ?» dit l'homme aux lunettes noires en souriant. « J'ai quelque chose à vous montrer. » L'hôtesse refuse poliment et elle lui explique que le règlement de la compagnie interdit formellement à un membre du personnel de bord de s'asseoir près d'un passager. Mais l'homme insiste « Asseyez-vous, s'il vous plaît. » Dans le même temps, il donne à l'hôtesse un papier plié en deux. « Voulez-vous lire ceci ?» Le ton est courtois, mais ferme. Il y a quelque chose dans la voix de cet homme qui inquiète subitement la jeune femme. Alors elle déplie le papier et elle découvre, au centre de la feuille, une seule longue phrase écrite en caractère d'imprimerie. Incrédule, elle lit, puis relit soigneusement le message, traduction « J'ai une bombe dans ma mallette, Je l'utiliserai s'il le faut. Je veux que vous vous asseyiez près de moi. Je suis un pirate de l'air. » L'hôtesse, qui a compris qu'il ne s'agissait pas d'une plaisanterie, s'assoit lentement près du passager. Celui-ci entrouvre alors son attaché-caisse et l'hôtesse peut apercevoir deux cylindres rouges entourés de dizaines de fils électriques de toutes les couleurs. L'homme aux lunettes noires referme la mallette et il continue. « Vous allez dire au commandant de bord qu'il doit contacter les gens de Seattle. Je veux que les gars là-bas préparent 200 000 dollars en coupure de vin. Il faut également qu'ils trouvent 4 parachutes. Et tout doit être prêt quand nous atterrirons. S'il manque quelque chose, je ferai sauter l'avion avec tous les passagers. » Compte tenu du décalage horaire avec les États-Unis, la nouvelle de cet incroyable hold-up dans le ciel sera connue grâce à l'AFP, l'agence France-Presse, aux petites heures du lendemain matin. Et sur RTL, le journal de 5h30 commence avec ce récit du journaliste Alain d'Auvergne.
Suspense au-dessus des États-Unis. Il y a actuellement quelque part entre l'État de Washington et le Nevada un Boeing 727 détourné. À l'intérieur, 5 hommes, un pirate de l'air et 4 membres d'équipage et 2 parachutes aussi. 2 ou 4, on ne sait pas très bien. Et on commence à se demander avec inquiétude ce que compte faire le pirate de ses parachutes. Tout a commencé hier soir, au moment où l'appareil allait atterrir à Seattle en provenance de Portland, dans l'Oregon. Sans être remarqué des passagers, un homme s'est approché de l'équipage. Il avait à la main ce qu'on a supposé être une bombe, et il a menacé de tout faire sauter si on ne lui remettait pas immédiatement 200 000 dollars, c'est-à-dire un peu plus de 100 millions d'anciens francs, et les parachutes en question. Finalement, l'avion a atterri, le pirate a laissé descendre les 36 passagers et les 2 hôtesses, et on lui a apporté les dollars et les parachutes. Et puis l'avion est reparti, train d'atterrissage baissé et rampe d'accès arrière ouverte, comme l'avait exigé l'inconnu. Depuis, plus aucune nouvelle, on attend maintenant l'escale du Nevada où théoriquement l'avion doit se poser pour se ravitailler en carburant. Pour l'instant, la police essaie surtout de découvrir l'identité de cet homme et tout le monde voudrait bien savoir si le pirate de l'air va tenter de sauter lui-même en parachute ou s'il va obliger ses otages à quitter l'appareil par ce moyen.
Dans les heures qui suivent, on va apprendre que l'avion a officiellement redécoller de Seattle en direction du Mexique. Les auditeurs d'RTL vont d'ailleurs suivre tout au long de la journée, presque heure par heure, les nombreux rebondissements de l'affaire grâce aux journalistes de la rédaction qui s'est évidemment mobilisé. Et il faudra attendre le journal de 18h30 présenté ce jour-là par Julien Besançon pour apprendre que le pirate de l'air a fini par sauter de l'avion en plein vol et qu'il s'est évanoui dans la nature.
Chapitre piraterie aérienne, l'exploit toute catégorie. Le record appartient désormais à un Américain. Il a détourné ce matin un Boeing 727. Au cours d'une escale, il a exigé qu'on lui remette un parachute et 200 000 dollars. Quelque part au-dessus du désert du Nevada, le pilote de l'avion se souvient avoir vu l'homme avec son parachute sur le dos, sa bombe sous le bras et sous l'autre, ses 200 000 dollars. Depuis, c'est le mystère. L'homme a disparu. Deux avions militaires qui escortaient le Boeing n'ont rien vu. La police américaine ignore tout de ce pirate audacieux. Personne n'a enregistré son nom. Il y a quelque part, donc dans le désert du Nevada, un parachutiste avec 200 000 dollars en poche, soit 1 100 000 nouveaux francs.
Alors que s'est-il passé exactement à bord de cet avion? Comment l'auteur de ce hold-up audacieux a-t-il pu échapper au FBI en sautant en parachute au-dessus d'une zone désertique? Nous allons y revenir dans un instant avec mon invité Jean-Pierre Otelli. J'ai une question pour vous. En rappelant que vous êtes pilote professionnel, quand vous avez découvert cette histoire sur le papier, si j'ose dire, vous ne pouvez pas ne pas vous projeter dans la situation quand même.
Bah, évidemment, parce que on peut s'imaginer à la place de Walter Scott, qui était le commandant de bord du vol 305, et essayer de se demander quelles peuvent être les réactions qu'un pilote peut avoir dans une telle situation, et comment est-ce qu'on va réagir, qu'est-ce qui va se passer, et c'est vrai que c'est important parce que le pirate il a deux aspects. Il a un aspect extrêmement menaçant parce que évidemment, il a une bombe ou une fausse bombe, mais ça, on n'en sait rien. Et puis, il a également un côté, on ne peut pas dire sympathique, mais il se passe quand même, il y a quelques petits, on ne peut pas dire des clins d'œil, mais il y a des moments où le commandement de bord le trouve quand même pas aussi méchant et aussi dangereux qu'on pourrait le penser.
Mais le commandant de bord, Jean-Pierre Otelli, a compris que c'est un homme qui connaissait l'aéronautique, qui était peut-être lui-même pilote d'avion, parce qu'il a donné des indications d'altitude, de vitesse, je crois. Enfin, j'ai relu ça dans votre livre ce matin. Donc, il est clair que c'est un homme du métier, quoi.
Ah oui, c'est un homme du métier, d'autre part c'est un parachutiste, hein, parce qu'il demande des parachutes bien spécifiques, il ne veut par exemple pas de club de parachutes militaires, parce que les parachutes militaires sont ce qu'on appelle des 6520, qui sont des parachutes ronds qu'on ne peut pas diriger. Lui, il demande un parachute sportif, en gros une aile volante qui peut se diriger. Il est extrêmement compétent en aéronautique, il est forcément pilote, parce qu'il vient un peu dans le poste de pilotage et il demande une altitude bien précise, il veut que l'avion vole à 10 000 pieds, parce qu'à 10 000 pieds il n'y a pas de problème de dépressurisation quand il va ouvrir la porte. Il va surveiller la vitesse, il veut absolument que l'avion vole à 150 nœuds, et pour ça il y a deux raisons. D'une part, il veut que les avions qui sont en train de le surveiller derrière lui, il y a deux avions de chasse qui sont derrière, qui sont en train de le suivre, et qui vont avoir un mal fou à faible vitesse à suivre le Boeing, donc ils vont être obligés de faire des zigzags dans le mauvais temps, ils vont le perdre de vue. En fait, tout montre que que Dan Cooper connaît parfaitement l'aviation et qu'il a parfaitement corrigé, préparé son coup.
Et alors, ce qui est extraordinaire, c'est qu'il a tout prévu vraiment, parce que il va voir effectivement le commandant de bord, puis ensuite il va dans la cabine où il n'y a plus personne puisque les passagers sont descendus. Il ferme la porte du cockpit de l'avion et là il met un sparadrap sur l'œilleton qui permettrait éventuellement au pilote de voir un peu ce qui se passe dans la cabine. Donc, pour savoir si la porte a été ouverte, en fait, le commandant de bord va le voir sur son tableau de bord, non?
Alors, de manière très futée, comme vous l'avez dit, il colle un morceau de scotch sur l'œilleton du Judas. Ensuite, il va ouvrir la porte arrière. Vous voyez, par exemple, au point de vue connaissance aéronautique, personne, très peu de gens savent ouvrir la porte arrière d'un Boeing 727. C'est une manipulation un peu particulière. Ça prouve qu'il a parfaitement préparé sa manip. Et puis, il ne veut absolument pas... L'un des points délicats et l'un des risques, c'est que l'équipage puisse voir à quel moment il va sauter. Hein. Il faut bien savoir que dans le 727, il va sauter de la porte arrière. Donc si l'équipage peut voir à travers le Judas, ils verront directement le moment où lui sera parti. Donc ça, c'est très important, parce que ce sera le moyen de savoir exactement à quel endroit et à quel moment, et de retrouver la position du saut. Donc ça, c'est déjà une des parties qui sont très importantes dans sa préparation.
Oui, il a ouvert la porte bien longtemps avant de sauter, de façon à tromper l'équipage, et quand il saute, le commandant de bord va dire, d'ailleurs vous le citez dans votre livre, cette fois-ci c'est la bonne, et il note bien sûr l'heure exacte, la position de l'appareil qu'il va transmettre aux autorités. Seulement, il fait très mauvais et les avions qui accompagnent le Boeing ne vont pas le voir physiquement sauter. Alors, vous disiez il y a un petit instant, Jean-Pierre Otelli, que l'homme était vraisemblablement un pilote, en tout cas très familier des choses de l'aéronautique. Et il a profité du moment pour sauter, du moment où l'avion traversait une petite couche nuageuse, donc les avions de chasse n'ont rien vu. Mais le commandant de bord... lui a noté l'endroit où il se trouvait, puis c'est son métier de savoir où il est, toujours en vol. Il était à peine à 50 km au nord de Portland, hein, je crois.
Alors c'est peut-être la seule petite erreur qu'a fait Dan Cooper dans toute l'exécution de son braquage. Parce qu'il ne s'est pas rendu compte que, comme il n'y avait aucune turbulence, au moment où il a sauté, l'avion, qui est comme un avion de ligne, mais comme il se trouvait totalement à l'arrière, l'avion a une toute petite secousse, un petit allègement d'une 80 kg, et aussitôt, le trim électrique a compensé, le nez a légèrement descendu, mais de rien du tout. Mais ça a permis au commandant de bord de noter cet infime, ce tout petit mouvement de l'avion, et il a dit, c'est là qu'il vient de sauter, ça y est, il est parti. Il a noté la position, il avait en plus, ce qui est assez rare dans un avion de ligne, il avait en plus une carte de vol à vue aux 500 000, comme celle qu'utilisent tous les pilotes pilote privé, qui était dans son avion, ce qui lui a permis d'avoir la précision et la position exacte de l'endroit où il se trouvait. Donc, mais le problème, c'est que Dan Cooper avait été suffisamment malin pour dire que vous n'utiliserez pas la radio jusqu'au moment où vous atterrirez à Reno. Et il lui avait donné une route bien particulière et très longue, ce qui fait que pour parcourir les 800 km jusqu'à Reno, l'avion aurait mis normalement une toute petite heure. Là, il en a mis plus de 4, parce qu'il lui a imposé de rester à 150 nœuds, là, donc à 270 km/h.
Et alors, il avait très bien choisi l'endroit, qui est une région touristique absolument superbe, paraît-il. C'est en bordure d'une chaîne de montagnes. Les pêcheurs de truites connaissent particulièrement bien cet endroit-là, mais ça veut dire que ça équivaut après à chercher une aiguille dans une botte de foin. Alors, l'enquête, comment se déroule l'enquête? Parce que il y a 18 jours, on va dire, où vraiment toutes les autorités mettent vraiment les petits plats dans les grands, si j'ose dire, pour essayer de le retrouver, mais ils vont pas réussir à trouver ni l'homme ni le parachute. Hein.
Alors, déjà, la première chose, c'est que il avait calculé le type de vol pour que, au moment où il saute, ça arriverait au moment de la tombée de la nuit. Donc, lorsqu'il saute, il fait pratiquement nuit. Il fait très mauvais. Il commence à neiger. Les conditions météo ne permettent pas à des hélicoptères de venir surveiller la zone. Et ce n'est que 4 heures après le saut que les autorités pourront déclencher l'alerte et auront la position. Entre-temps, personne ne la saura. Donc, si vous voulez, déjà en 4 heures, il aura le temps déjà de se cacher, de récupérer l'argent, de planquer l'argent quelque part et de ne pas être tout de suite inquiété. Alors, évidemment, les autorités vont lancer une chasse à l'homme absolument extraordinaire. Ça va commencer au petit matin et ça va durer 18 jours. Pendant 18 jours, ils vont l'armée, la garde nationale, les shérifs locaux, absolument tout le FBI, tout le monde est sur la brèche, on ratisse toute la région d'une manière, on la passe au peigne fin. Est-ce que c'est bien là qu'il est tombé ou pas? On est en bordure du Mont Sainte-Hélène qui est extrêmement montagneux, il fait très froid, il a neigé, donc on a vraiment, ce sont des conditions absolument terribles pour faire une recherche et on ne trouve rien et on ne le retrouvera jamais.
Oui. Alors, cela dit, l'enquête va se poursuivre. Le FBI est sur le coup, évidemment. Ils ont des moyens quand même très importants. Et Dan Cooper veut faire des émules très rapidement parce que l'année d'après, en 1972, la FAA, c'est un organisme international, quoi, va ordonner que tous les Boeing 727 soient munis d'un mécanisme qu'on a appelé d'ailleurs, je crois, Cooper Vane, du nom donc de ce type, pour empêcher l'escalier arrière d'être abaissé en vol. Mais ça ne va pas empêcher un certain nombre de gens de tenter de détourner des avions avec exactement le même scénario.
Alors, ce qui est extraordinaire, c'est qu'évidemment, il a eu beaucoup de copieurs, si on peut dire. Ouais. C'est-à-dire que les gens ont tenter de dérouter des avions de ligne en utilisant un scénario tout à fait semblable. Et on a même le cas d'un pirate de l'air qui a fait la même chose avec une date anniversaire sur le même vol Northwest 305 en demandant la même somme d'argent avec le même type de parachute. C'était assez extraordinaire. Malheureusement, aucun des copieurs n'a réussi à s'en tirer comme Dan Cooper. Et évidemment, très rapidement, les gens se sont rendus compte que c'était beaucoup plus difficile lorsqu'on copiait que lorsqu'on était l'original.
Alors, on va raconter ça en détail, mais avant d'aller plus loin, je voudrais simplement qu'on cite le nom du suspect numéro 1, du premier suspect qui était dans le collimateur du FBI, d'un homme qui s'appelait Richard McCoy, et le 7 avril 1972, c'est-à-dire 4 mois après le détournement de Dan Cooper, McCoy avait embarqué sur un vol, là c'était une autre compagnie, United Airlines, je crois, pendant une escale à Denver. Boeing 727 avec le même escalier arrière, il n'y avait pas encore eu la mesure de la FAA, et il s'est échappé de la même manière. Il avait donné, comme vous le signaliez, le même type d'instruction que Cooper. Et là, la police va recevoir un renseignement et on va leur indiquer le nom de cet homme qui est un ancien un vétéran de la guerre du Vietnam, ancien béret vert, pilote d'hélicoptère, parachutiste, etc. Mais et McCoy va être arrêté, mais en fait, on va s'apercevoir surtout qu'il faisait partie de la garde nationale quand on recherchait Cooper quelques mois auparavant, et on va pas réussir à prouver quoi que ce soit contre lui.
Alors, c'est vrai que là, on est dans une véritable énigme. Certains ont pensé que, en réalité, Dan Cooper, non pas qu'il avait bénéficié de complicité, mais que beaucoup de gens, lorsqu'ils ont appris le braquage, ont trouvé le bonhomme plutôt sympathique. Et que, dans la région du Mont-Saint-Hélène, dans cette région, il y a pas mal de personnes qui connaissent peut-être ou qui ont su qui était Dan Cooper. Ouais. C'est d'ailleurs un petit peu la raison pour laquelle dans la région, c'est pas quelqu'un qui est devenu très antipathique, puisque chaque année il y a des fêtes qui sont organisées dans la ville d'Ariel pour fêter la réussite de Dan Cooper. Ouais.
À la date anniversaire de l'opération. Je reviens sur ce McCoy parce que, en fait, on n'a jamais pu prouver qu'il était pour quoi que ce soit dans l'opération Dan Cooper. Mais pour le détournement de 1972, même s'il a, lui a dit oh « ben non, c'est pas moi », etc., il a quand même, on a trouvé chez lui près de 500 000 dollars en espèces, et il a été condamné quand même à 45 ans de prison hein, à l'époque.
Oui, c'est vrai, mais honnêtement, les doutes ont toujours été très forts sur l'identité de Dan Cooper. C'est vrai que le gros intérêt du FBI, c'était de dire on l'a attrapé. Et de mettre en avant le fait que c'était Dan Cooper. En réalité, il est pratiquement certain que c'était pas lui. Le vrai Dan Cooper n'a pas recommencé, et pour une raison très simple, c'est quelqu'un qui a eu l'intelligence de préparer un scénario d'attaque dans lequel tout avait été absolument prévu, tout avait été choisi. Le type d'avion, il n'aurait pas pu le faire sur un Boeing 737 parce qu'il n'aurait pas pu sortir. Il fallait que ce soit un escalier arrière. Il avait préparé le type de parachute. Il savait que sur ce vol, par exemple, il n'y avait pas de seating, c'est-à-dire il n'y avait pas de place nommément choisie. Il savait que le vol était peu rempli, ce qui lui permettait de s'asseoir totalement à l'arrière. C'était très important. Il avait demandé une somme très faible de 200 000 dollars, justement parce qu'il savait que la gestion du temps était un facteur de réussite. Il fallait que ça aille très vite, et en fait, ça a été très vite. Il n'y a eu que 4 heures entre le moment où il détourne et le moment où il s'échappe avec l'avion. Tout a été pensé. Et les gens qui ont étudié se sont dit qu'un homme qui avait préparé un braquage aussi perfectionné n'aurait pas été aussi bête, eu l'idée de le recommencer de la même façon. C'est un des arguments.
Ouais. Alors, cela dit, l'histoire, on pourrait en parler pendant des heures, et votre récit est extrêmement complet. Vous dites que, par exemple, il avait laissé très peu de temps, finalement, aux autorités pour réunir cette fameuse somme de 200 000 dollars, à tel point que le FBI n'avait pas eu le temps matériel pour noter les numéros d'identification des billets, et on avait passé toute la rançon, je crois, à la photocopie.
Voilà, c'est la deuxième toute petite erreur de Dan Cooper, c'est que justement, en gérant le temps, il s'était dit qu'il n'aurait pas le temps de noter les numéros. Et le FBI, là-dessus, a été plutôt bon, ils avaient une photocopieuse très rapide, et ils ont passé les billets, la totalité des billets de 20 dollars, parce qu'ils voulaient des billets de 20 dollars, tout à la photocopieuse, et ils ont conservé ces numéros. Ce qui leur a permis, 10 ans plus tard, lorsqu'un gamin a retrouvé un sac dans un trou dans la région, où il avait sauté, il y avait 5 800 dollars. Et ouais, parmi ces billets, ça faisait partie des billets qui avaient été
les billets de la rançon.
Les billets de la rançon. Ouais, c'est également une des raisons qui font penser que le second, entre guillemets, le cop- Cooper, le Dan Cooper de McCoy, n'était pas le Dan Cooper.
Oui, alors cela dit, évidemment, McCoy a toujours nié avoir été Dan Cooper, parce qu'il a été fortement soupçonné de l'être. On l'a dit, il s'est fait arrêter avec 500 000 dollars de la deuxième rançon, en fait, de son propre détournement. Mais quand je disais tout à l'heure que l'aventure s'est très mal terminée pour lui, c'est que, condamné à 45 ans de prison, il va réussir à s'évader, et là aussi on est dans un scénario complètement fou, puisque il va se fabriquer un faux pistolet, je crois, dans la prison où il est, s'évader, et il vole un camion poubelle, etc. Et trois mois plus tard, il est localisé par le FBI en Virginie, et il tire sur les agents du FBI, et là, il est tué par la réplique des gens du FBI avec un fusil de chasse. Donc on ne saura jamais s'il était ou non le Dan Cooper, mais on a bien compris avec ce que vous venez de nous dire que ce n'était pas vraisemblablement le bon candidat. L'invité de l'heure du crime ce soir, Jean-Pierre Othelli, pilote professionnel, expert aéronautique, écrivain aussi, qui aux éditions JPO a publié de très très nombreux livres sur l'aéronautique d'une manière générale, et en particulier pour ce qui nous intéresse ce soir, ce livre donc Gangster du ciel, où il réunissait quelques-unes des affaires les plus extraordinaires qui touchent à la fois à la pègre, au braquage et à l'aéronautique. Alors, parmi les autres suspects, je disais qu'il y avait quand même de bons clients, Jean-Pierre Othelli, il y a eu, c'est une femme, je crois, qui s'appelait Jo Weber, qui a un jour appelé, après la mort de son mari, qui s'appelait Johann Weber, elle a appelé les autorités en disant « Mais mon mari, avant de mourir, il m'a dit un jour, en 1995, juste avant sa mort, « Je suis Dan Cooper ». Qu'est-ce que vous pensez de cet épisode-là ?
Alors, je vais vous dire franchement, personnellement, je reste persuadé que Dan Cooper n'a pas été attrapé. Et que la magie qu'il a créée, la légende qu'il a créée, a suscité bien des vocations. Et qu'il y a beaucoup de gens qui ont souhaité être Dan Cooper, qui ont souhaité qu'on les retienne comme étant le héros de ce braquage. Je vais vous donner un exemple assez extraordinaire. Sur la base de McCord, c'est de la base de McCord qu'ont décollé les C-130 et les deux fantômes qui ont suivi le 727 pendant toute l'aventure. Ce sont eux qui étaient en train de zigzaguer derrière l'avion et qui n'ont pas réussi à repérer, à voir le moment où il a sauté. Chaque année, après le hold-up, la base a organisé un espèce de débat, de dîner-débat, dans lequel il s'agissait de fêter cet adversaire extraordinaire qu'on n'avait pas réussi à attraper, et on dansait, on faisait la fête, etc., pour commémorer ce Dan Cooper que personne n'avait rencontré. Et 20 ans après, les deux pilotes des fantômes qui étaient donc derrière, à zigzag et derrière, ont annoncé qu'ils avaient rencontré le Dan Cooper, le vrai Dan Cooper, c'était 20 ans plus tard, et qu'il leur avait prouvé que c'était bien lui qui était dans le coup, en leur faisant jurer évidemment de ne pas le dénoncer. Et ça, c'était 20 ans après. 20 ans après qu'il y ait eu beaucoup de copieurs qui se sont fait passer, certains qui ont voulu mourir en disant qu'ils étaient Dan Cooper, McCoy qui a été supposé le Dan Cooper pendant un moment. En réalité, je reste persuadé qu'aujourd'hui, Dan Cooper, il y a peut-être pas longtemps, hein, il était dans une chaise longue avec ses lunettes de soleil et il était toujours peut-être dans la même région en train d'attendre. Il faut bien savoir une chose, lorsque les copieurs ont été attrapés, la première chose qu'a fait le FBI, il a pris les photos des les portraits robots qui ont été faits par les passagers et ils les ont montrés aux passagers en disant « Est-ce que vous reconnaissez ce monsieur ?» Et est-ce qu'ils ont fait des copiages, quoi. Et aucun passager n'a reconnu le pirate de l'air qu'ils avaient quand même approché de très près, y compris le commandant de bord qui avait été juste à côté, y compris Jennifer, l'hôtesse, et Cathy, l'hôtesse qui l'a libérée. Donc, si vous voulez, c'est vrai que la légende a été si forte qu'elle a suscité des vraies vocations et qui a motivé des gens pour devenir Dan Cooper. En réalité, même parmi les passagers, les gens ont tous dit au FBI, mais d'abord qu'ils ne s'étaient pas rendu compte qu'il y avait eu un détournement, que les gamins avaient bien examiné cette espèce de passager qui avait des lunettes noires et qui leur paraissait un petit peu louche, mais qu'ils l'avaient tous trouvé très gentil et qu'aucun passager ne s'était rendu compte qu'ils avaient participé indirectement à une prise d'otage. Ils ont tous trouvé que c'était très bien. Et donc, quand on leur a demandé « Est-ce que c'est lui ?» Ben non, c'était pas lui. Donc, moi, personnellement, je pense que Dan Cooper n'a jamais été attrapé.
Oui, parce que ce qui est extraordinaire, c'est que on sait tout ça par la presse américaine. Jo Weber, donc cette femme, s'est confiée à US News and World Report, qui est un journal énorme aux États-Unis. Elle a raconté que son mari avait des cauchemars la nuit parfois, et dans son sommeil, il avait dit qu'il avait laissé ses empreintes sur l'escalier arrière, qu'il n'aurait pas dû, etc. Enfin, il y avait des tas de détails qui sont donnés par les gens qui renforcent la chose. Et puis, elle avait surtout évoqué un voyage, des vacances, un voyage sentimental, comme elle avait dit, qu'il les avait amenés avec son mari vers le fleuve Columbia, qui est donc l'une de ces deux rivières qui est tout à côté de Portland. Et elle avait été étonnée parce que son mari avait arpenté la rive du fleuve et que 4 mois plus tard, ou 4 ou 5 mois plus tard, c'est l'histoire du petit garçon qui est là en train de pique-niquer avec ses parents. Ils font une chasse au trésor pour occuper les gosses. Et là, le môme va trouver une boîte métallique dans laquelle il y a ces fameux dollars dont on sait maintenant de façon certaine qu'ils faisaient partie de la rançon quand même.
Oui, tout à fait. Ouais, mais voilà. Pourquoi y aurait-il seulement 5 800 $ que le total de la rançon faisait 200 000 $? Et pour revenir au cauchemar de Weber, il faut se rappeler une chose. Lorsque Walter Scott, le commandant de bord, a rencontré même pour la première fois Dan Cooper, c'est-à-dire qu'il est sorti du poste de pilotage, il est allé à l'arrière et il est allé s'asseoir à côté de Dan Cooper qui lui demandait de s'asseoir. Le premier geste qu'a fait Dan Cooper vis-à-vis du commandant de bord, ça a été de lui tendre la main pour lui dire bonjour. Et Walter Scott a été frappé, et il l'explique très dans ses témoignages, il a été frappé par le calme de Dan Cooper, qui n'était pas du genre à faire des cauchemars. Il a dit que sa main ne transpirait pas, il était très calme et presque très aimable. Et il dit, je l'ai même trouvé tellement calme et tellement gentil que j'ai même eu un moment hésité à croire qu'il avait vraiment une bombe. Et c'est parce que Dan Cooper a ouvert sa mallette et lui a montré les cylindres rouges avec les fils qu'il s'est dit, bon, maintenant, il faut absolument qu'on agisse comme si c'était une bombe, même si ça n'en est pas une. Mais l'homme était d'un calme absolument incroyable et pas du tout du genre à oublier ses empreintes sur les montants des vérins de la porte arrière.
Ouais. Alors, bon, cela dit, il ne faut pas tuer le rêve parce que, comme vous l'avez dit, chaque année, il y a le fameux Dan Cooper's Day. Il y a des tas de gens qui vont pique-niquer, surtout quand c'est l'été indien, quand même, dans cette région, qui espèrent que leurs mômes vont peut-être trouver encore une partie de la rançon. Et en tout cas, c'est une histoire qui est au niveau des histoires qui continuent à faire rêver parce qu'elle n'est pas résolue, bien sûr, et qu'il reste toujours, toujours un point d'interrogation. Mais apparemment, et je voudrais terminer par cela parce que vous le signalez dans votre livre à la fin du récit, en fait, les seuls qui ne rêvent plus à attraper Dan Cooper, sont les gens du FBI. Ils avaient donné un nom de code au dossier Cooper, ils avaient appelé Norjak, et officiellement, ils ont classé l'affaire faute de piste, mais très tardivement, le 12 juillet 2016. Voilà. Donc, ça nous ramène à la période contemporaine. souveraine et au fait que c'est quand même une des histoires les plus extraordinaires de toute l'aéronautique mondiale. Merci beaucoup Jean-Pierre Otelli. Je renvoie tous ceux qui vous ont écouté ce soir à ce livre, Gangster du ciel, qu'on peut se procurer certainement aux éditions JPO. Et je vous remercie, l'émission est maintenant terminée.